franceinter.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hygiène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 50.
Denis Chessoux.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine d'environnement CO2 de mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec Cédric Lalanne et Renan Maillet à la technique et assisté de Stéphane Combes et Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. Connaissez-vous le Pradet dans le Var ? Sympathique bourgade entre le joli cap de Kerkéran, Lagarde et Toulon. Bon, problème, on est sur un bassin versant des montagnes, dans une cuvette de 50 km² et c'est le vase d'expansion des rivières locales quand elles sont shootées à l'EPO des fortes pluies. Alors là-bas, si vous voulez, un orage d'été vous fait monter en deux heures le chiffre d'affaires des marchands de bottes en caoutchouc. 20-30 cm d'eau, alors pourquoi construire des piscine si celle-ci arrive directement dans votre jardin ou votre maison. Aussi, tenions-nous à saluer l'initiative d'élus de sensibilité écologique de la ville du Pradet qui ont déclassé des terrains historiquement agricoles sur plus de 14 hectares en terrains constructibles. Ouais, magie ! Ces terrains sont situés sur le site dit de la Grenouille. Alors inutile de se demander pourquoi les anciens ont appelé ainsi ce lieu dit en pleine zone humide. Oui, oui, mais attention, attention, sur les 14 hectares, on a un projet d'éco-quartier. Eh ouais, avec 900 logements, on est écolo, on l'est pas, même les pieds dans l'eau. Le classement aux zones constructibles de ces terrains s'est fait contre l'avis de la Chambre départementale d'agriculture, contre l'avis de l'État et celui du commissaire enquêteur. Le Pradet, comme de nombreuses autres communes, ont été reconnus en état de catastrophe naturelle pour les inondations écoulées de boue de cet automne. Alors le phénomène en fait n'est pas récent et dépasse largement le Pradet. Hein. Quand il fait grand beau et sec, la Grande Bleue attire les vieux os et les jeunes os. La pression foncière est telle qu'on est tenté, quand on est maire, de transformer la Côte d'Azur en Côte de l'Or en laissant construire n'importe où, n'importe comment, mille et un pâtés pavillonnaires. En transformant le Garlaban chez Rapagnol en salon d'exposition de l'habitat individuel. Bien. Alors on sait la nature méridionale fantasque et débordante, mais les permis de construire pleuvent à grosses gouttes et les grêlons de taxes foncières ont la taille d'un œuf d'autruche, eh oui. Bref, beaucoup trop de risques courus pour une administration tatillonne qui se parfume de les éviter en surfant sur des règlements de plus en plus contraignants que chacun, dès lors, va s'ingénier à contourner. Plan local d'urbanisation morne plaine sur laquelle les chevaux du midi lâchés peuvent galoper. Il sera toujours temps d'ailleurs aux maires d'ouvrir le parapluie après les ravages, de faire le dos rond derrière les préfectures sur les autorisations desquelles on s'est assis, en évitant le regard indigné des plaignants inondés qui ont perdu tout ce qu'ils n'auraient jamais dû avoir en réclamant au gouvernement l'état de catastrophe par nature imprévisible. D'ailleurs, ce sont souvent les mêmes hein, qui, après avoir assiégé la mairie pour un permis, vont casser les carreaux pour l'avoir obtenu. Bon, donc basta, construire et reconstruire fera toujours travailler la grande machine humaine. Encore une fois, les associations comme VAR Inondation veillent au grain, montent au créneau, essayent de parer les coups, mais les appétits sont féroces dans notre beau pays. Les grenouilles, vous savez, on les mange et si possible, leur comité de défenseurs avec. Et tenez, tenez, il y a deux jours, se tenaient à Bordeaux les premières assises des risques naturels. Et ce cas d'école y aura sûrement été évoqué en attendant le jumelage prochain du Pradet avec la faute sur mer. Au menu, je commence par la fin, nous aurons notre actualité de l'environnement avec plein de sujets avec Nathalie Fontrelle. Et puis un beau petit dossier sur les baleines, sur les cétacés, avec un reportage en mer de Cortés d'Anne Pastor au Mexique. On va donc les voir se reproduire, ces délicieuses baleines. Et sans plus tarder, eh bien c'est Jean-Marie Pelt. Et là, on va donner un petit coup de chapeau, je parlais d'association, et eh bien ça tombe très bien. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous allons donner un coup de chapeau aux associations aujourd'hui en France. Elles sont plus d'un million, je crois que c'est un million deux, cent mille.
Exact.
Et elles remplissent quand même un travail, on va dire, d'intérêt général et ça ne va pas très fort.
C'est un secteur de l'activité très important, vous avez tout à fait raison de le dire. Elles embauchent quand même plus d'un million de salariés, ce qui n'est pas mince. Et elles ont un budget global de 60 milliards. Donc c'est un secteur économique puissant. Or, ce secteur est en grande difficulté parce que les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, les communautés de communes, les conseils généraux et surtout l'État, les subventionnent de moins en moins. On assiste à petit à petit une sorte de restriction qui pourrait aboutir à un étranglement de la vie associative. Alors, il y a une étude qui a été menée par une association qui s'appelle Fonda. C'est un laboratoire d'idées, étude qui a été, je crois, initiée par le journal La Croix, avec des chiffres qui donnent à réfléchir. Alors voici ces chiffres. L'État versait aux associations 15% de leurs subventions en l'an 2000, 12% en 2005, 10% en 2010. Oui, ça dégringole vite. Hein. Les conseils généraux ont vu le rapport aux subventions des associations baisser de 4% uniquement de 2009 à 2010. Bon, les communes, c'est resté à peu près stable, de l'ordre de 14%. Mais on va tout de suite comprendre pourquoi ce phénomène se produit. C'est parce que les organismes publics qui subventionnent, quand ils veulent faire des économies, coupent d'abord dans le budget des subventions. Parce que dans les autres budgets de fonctionnement, le fonctionnement des lycées, des collèges, des routes, etc., on ne peut pas faire des économies, parce que c'est surtout du personnel qui est utilisé. On ne peut pas tout d'un coup diminuer les salaires du personnel. Donc s'il y a un domaine où on peut couper dedans, c'est là qu'on va couper.
Et très souvent, donc, c'est le culturel, c'est l'environnemental.
C'est là,
aussi.
C'est ça. C'est là-dessus que l'on va vouloir faire des économies. Je prends le cas du Conseil général. Les conseils généraux se sont vus dotés de la prise en charge du troisième âge et aussi de tout un secteur social qui n'était pas de leur compétence avant.
Bah, ils ont budget... en gros, en moyenne en France, entre 50 et 60% des budgets des conseils généraux passent dans le social. Hein.
Tout à fait, ce n'était pas du tout le cas avant. Hein. De sorte que maintenant, ils coupent fort dans les budgets des associations. En plus, il y a un autre aspect dont on ne parle jamais, mais moi qui m'a toujours beaucoup frappé et que je n'aime pas, pour être tout à fait clair, c'est le fait que l'on systématise de plus en plus les appels à projets. C'est-à-dire que ceux qui donneront des subventions vont faire des appels à différentes associations, comme on fait des appels aux architectes quand on a quelque chose à construire. Des appels d'offres, ça s'appelle. Et alors, les associations sont en concurrence les unes avec les autres pour obtenir l'appel d'offres.
Et vous avez remarqué que c'est qu'on adressait les gens les uns contre les autres. C'est pas nouveau,
ça. Eh bien, c'est tout à fait ça. Oui. Et c'est tout à fait ce qui se passe. Alors, ça limite considérablement les marges d'initiative des associations qui doivent se mettre en ordre de marche en fonction de ce que demande le décideur qui va les subventionner. C'est un premier point. Et moi, je crois qu'il faudrait s'y prendre autrement. Alors, moi, je vais vous dire comment je crois qu'il faut s'y prendre.
Allons-y.
Je pense qu'il faut continuer à subventionner le travail de l'association en respectant sa capacité d'initiative. Et que si il y a un travail que l'on attend vraiment d'une association, alors l'État ou celui qui subventionne passe une commande à cette association pour tel travail. Mais il faut abandonner ce système des appels d'offres. Moi, j'ai abandonné pour l'Institut d'écologie depuis très longtemps ce système, parce que je voyais qu'il fallait rentrer dans les arcanes des désirs de l'État, lesquels changent tous les 6 mois. Vous savez comment fonctionne la République. Donc, mon institut serait foutu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler comme ça. Nous devons avoir nous-mêmes nos initiatives, nos projets, nos engagements. Et c'est là-dessus que la subvention doit évidemment passer. Alors si, comme c'est arrivé quelquefois, l'État nous demande ceci, il nous le demande à nous et on le fait.
Et non alors, tomber dans une allégeance, on va dire.
Il ne faut pas tomber dans une allégeance, parce que l'association, c'est vraiment le lieu où la vie s'ouvre, où la vie est là en train d'émerger, où il y a de l'innovation sociale, où il y a du changement. Enfin, nous avons maintes fois parlé des changements qui sont regroupés sous le nom de développement durable. Dieu sait que les associations sont engagées sur tous ces terrains de respect de la biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique, de l'aménagement écologique, des approches énergétiques, disons, raisonnables.
Et
etc.
tout le rôle d'amortisseur social. Hein.
Absolument. Et malheureusement, je sens que les difficultés s'amoncellent. Alors, vous allez me demander comment je le sens. Je le sens parce qu'on reçoit des coups de téléphone continuellement d'associations qui viennent me dire « Ah, monsieur Pelt, il faut que vous nous aidiez. Est-ce que vous ne pourriez pas écrire à notre maire? Est-ce que vous pourriez être notre parrain? Est-ce que, etc., etc. » Ça n'arrivait jamais. C'est depuis 2 ans. Et quand j'ai vu ce rapport de la Fonda, Et je me dis, ça vaut le coup qu'on pousse un gentil coup de gueule en passant ce sujet, parce que je ne voudrais pas que dans une période où vraiment, plus que jamais, en période de transformation sociale majeure dans laquelle nous sommes, on étouffe là. La vie associative.
Et alors, paradoxalement, moi je vous le dis parce que la MAIF, donc cette mutuelle, avait commandé, donc il n'y a pas tellement longtemps, à l'Institut CSA, un sondage avec la question, c'était en gros, à qui se fier pour lutter contre les dommages de la crise ? Et la réponse des Français à 68%, ça a été aux associations.
Ah ben voilà, ouais. Très intéressant. Ça va tout à fait dans le sens que je ne connaissais pas ce sondage, mais dans le sens que je perçois en écoutant les gens. Bon, je vois aussi des associations qui sont quasiment à l'agonie. Alors, il y a des moyens, évidemment, un peu latéraux de s'en sortir. Mutualiser, par exemple, les ressources. Lorsqu'on crée une maison des associations, chacun y retrouve des services qui seront, par conséquent, utilisés en commun. Encore faut-il que les associations vivent en paix.
Oui.
Ce n'est pas toujours le cas,
c'est ça.
Surtout dans l'écologie. Mais dans notre maison, le cloître des Récollets, on vient de mettre en place, et la mairie de Metz, des locaux qui seront la maison, à partir de notre maison, pour les associations à caractère écologique. Oui, alors il y a aussi...
Vous n'appelez pas la guerre ni le conflit, Jean-Marie, c'est ça aussi.
Pas trop.
Dès qu'on vous voit, on se sent en paix. Ça marche.
Oui, ça sera. Ils seront en paix chez nous. C'est mais une oui, maison de la paix voilà. Chez nous. Oui, non, mais je crois que c'est à peu près. Et puis, il y a aussi quelque chose que je vois se produire qui est pas mal. C'est des entreprises qui ont un petit peu, disons, la fibre sociale, la fibre écologique, qui peuvent prêter des gens compétents chez eux en les mettant pour des temps donnés ou pour des tâches données à la disposition d'associations. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est pas trop mal. Encore que là aussi, les associations doivent pouvoir garder une liberté d'initiative. Donc, on est sur une corde raide, mais il faut sauver les associations, absolument.
Merci beaucoup, Jean-Marie Pelt. Nous, on va garder notre association, parce que ça marche pas trop mal. Jean-Marie, oui. Donc on va vous retrouver la semaine prochaine. Et puis voilà.
C'est la symbiose.
Merci, Jean-Marie. À très bientôt.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Mais quand même, les deux tiers des associations voient leur budget aujourd'hui donc baisser et donc elles rament. Quoi de neuf ? Eh bien ce sont les baleines, oui, dans quelques instants après Art Mingo.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
Mes habits et moi. On fait tous les soirs chambre à part quand je rêve ou bien par le bas sans rien dire, eux vont au placard. C'est une longue histoire. Col roulé secret chuchoté entre Juliette Anco et moi et les pulls plus ou moins feutrés.
Faut bien que tu te mettes à nu en chanson dans des draps brodés. Au fond des yeux et dans la rue
quand je croise des cartons habités. Mes habits et moi. On broie du noir, on a des blancs, mais on se souvient qui fait quoi et qui se froisse de l'air du temps. Y'a des peaux qui font le guerlain, mais garde le souvenir rugueux du cuir des blousons Saint-Germain. Moi, mes rides prennent des plis heureux.
Faut bien que tu te mettes à nu en chanson dans des draps brodés. Au fond des yeux dans la rue
quand je croise des cartons habités. Mes habits et moi.
On fait tous les soirs chambre à part
quand je rêve ou bien par le bas sans rien dire, eux vont au placard. Mes habits et moi.
On fait tous les jours bande à part.
Je suis celle qui ne se change pas et se moque de tous les regards.
Faut bien que tu te mettes à nu en chanson dans des draps brodés. Au fond des yeux dans la rue
quand je croise des cartons habités. Mes habits et moi. Mes habits et moi.
Des habits.
Mes habits et moi, eh oui. Art Mingo et Lara Guillarot, choisis par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur, CO2 de mon amour, donc aujourd'hui avec les baleines. Mais, pour rester dans le sujet baleine, enfin même le commencer, nous avons enregistré jeudi matin avec Stéphane Combe, Paul Watson. Alors Paul Watson, c'est un militant donc canadien, éco-terroriste, disent ses ennemis, de l'association Sea Shepherd, donc le berger de la mer, un homme qui prend des risques et qui pourfend donc la pêche à la baleine, pratiquée par le Japon. Donc Paul Watson, on est à sa 8e campagne d'opération de défense des baleines et je lui ai simplement demandé, où êtes-vous là actuellement sur votre bateau?
Nous sommes dans l'Antarctique, au sud de la Nouvelle-Zélande, à plusieurs centaines de milles de la Nouvelle-Zélande, et nous sommes en train de poursuivre la flotte japonaise de chasse à la baleine, et les Japonais nous poursuivent également. Donc, quand les bateaux japonais nous courent après, ils ne chassent pas les baleines, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de baleines qui ont été harponnées actuellement.
Et alors, comment faites-vous pour repérer les baleiniers japonais?
Nous venons dans cette région du monde depuis 8 ans et donc nous avons une bonne expérience pour traquer les bateaux pêcheurs de baleines. De plus, nous utilisons des moyens techniques modernes pour surveiller les bateaux, comme les drones, et nous avons donc des vidéos et des photographies aériennes des positions des bateaux.
Petite précision, il y a un gros bateau usine qui découpe les baleines et puis il y a donc les bateaux aussi plus légers qui harponnent les baleines et qui après les amènent dans ce bateau usine. Dites-moi, quelle est la relation entre le tsunami japonais et la chasse à la baleine?
Les Japonais ont reçu 28 millions de dollars d'aide de la part de l'Australie suite au tremblement de terre et tsunami de 2011. Et cet argent a été détourné pour le renforcement de la flotte qui protège les bateaux pêcheurs. Ce budget a permis cet hiver à la flotte japonaise de partir en mer. C'est l'une des raisons pour lesquelles les pêcheurs sont en mer cette année, car les années précédentes, ils n'avaient pas beaucoup de subventions de la part du gouvernement, car ils ne faisaient pas énormément de profit avec la chasse à la baleine.
Et alors, comment vous procédez pour arrêter les bateaux japonais? Est-ce que vous harponnez vous-même les harponneurs?
En fait, ce que nous essayons de faire, c'est de bloquer le système de propulsion des bateaux chasseurs en mettant les cordages dans les hélices. Donc, s'ils ne peuvent plus avancer et suivre les baleines, ils ne peuvent plus les tuer. Dans le même temps, nous faisons de telle sorte que les chasseurs ne puissent plus capturer de baleines, ce qui fait que l'année dernière, les Japonais n'ont pu capturer que 17% de leur quota et nous avons été capables de sauver 860 baleines. C'est une technique qui marche, c'est un peu agressif, mais cela ne blesse personne.
Paul Watson, pourquoi est-ce votre combat?
Parce que si nous n'arrivons pas à sauver les baleines, les requins, les poissons et le plancton, l'océan meurt. Et si l'océan meurt, nous mourrons tous. Nous ne survivrons pas à la mort de l'océan.
Alors je tiens à préciser que depuis jeudi, donc, il y a un bateau suiveur qui a agressé Paul Watson donc, et son équipe et qui a quand même eu des blessés. Hein. Je vous le disais, c'est quelqu'un qui prend évidemment pas mal de risques. Nous avons à Brest, alors là, dans un endroit plus calme, grâce à nos amis de France Bleu à Quimper, France Bleu Brésisel, Céline Liret qui est avec nous, spécialiste des cétacés à Océanopolis et directrice scientifique et culturelle d'Océanopolis. Bonjour Céline Liret.
Bonjour Denis.
Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous venez d'entendre de Paul Watson avant de rentrer peut-être un peu plus chez nos amis cétacés?
C'est vrai que c'est un combat difficile, hein, lutter contre la chasse à la baleine, en particulier celle menée par les Japonais. Mais je crois qu'il est encore bien qu'aujourd'hui, il y ait des gens comme ça qui ont envie de défendre l'environnement, défendre la nature et défendre l'océan.
Lorsque l'on parle des cétacés, parlons des ancêtres des baleines. Pendant 180 millions d'années, donc on a eu nos fameux dinosaures qui ont régné sur la Terre et puis aussi donc, dans les océans. Mais qui étaient les ancêtres des baleines?
Alors, on avait ce qu'on appelle les archéocètes, qui étaient les ancêtres des baleines. C'est vrai que c'est une histoire assez exceptionnelle, puisqu'en fait, c'est des animaux qui vont quitter le milieu terrestre pour partir vers le milieu marin. Au départ, c'était des animaux marcheurs et coureurs, il y a 50 millions d'années. Et puis, petit à petit, ils ont évolué pour devenir complètement dépendants du milieu marin. Les pattes ont disparu, l'ensemble du corps est devenu s'est allongé pour pouvoir être très mobile dans l'eau. Et puis, on a des nageoires à la place des pattes, évidemment.
Alors, parlez-nous maintenant des différents cétacés. On sait qu'il y a ceux qui ont des fanons, ceux qui ont des dents. Faites-nous un petit peu les différences.
Alors, souvent, on dit baleine et dauphin. Alors, la différence, elle est située, donc, une différence facile, c'est au niveau de la mâchoire. Chez les baleines, on va trouver, en fait, des fanons. Des fanons faits de kératine, comme les ongles chez nous, ou les cheveux. Et puis, chez les dauphins, on va trouver des dents. Alors, parfois pas visibles pour certains, ou parfois très nombreuses.
Donc, ce sont les orques, par exemple ?
Les orques font partie des dauphins, oui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ah. On les appelle les baleines tueuses. Hein.
Ah oui.
Alors, c'est là la confusion. Il y a des petites choses comme ça, un peu difficiles. On parle de baleines à bec. Or, ce sont des animaux qui ont des dents. Donc, ils sont plutôt du côté des dauphins, hein, des odontocètes. Alors que, par exemple, la baleine bleue hein, que tout le monde connaît, mm-hmm. là, celui-ci, cette espèce-là, est bien du côté des mysticètes, c'est-à-dire les cétacés à fanons. Alors, l'orque, voilà, lui, est qualifié de baleine tueuse. Or, c'est plutôt un dauphin tueur.
Céline Miret, parlez-nous de cet aliment indispensable qui est le krill pour les cétacés.
Alors, c'est vrai que le krill est indispensable pour les mysticètes, hein, pour les baleines, hein, puisque ce sont des animaux qui possèdent des fanons. Donc, ils vont se nourrir d'espèces qu'ils vont pouvoir filtrer, qu'ils vont pouvoir extraire facilement de l'eau. Et donc, le krill est vraiment donc une espèce présente en forte densité. Et ce que vont faire les baleines pour s'en nourrir, c'est vraiment avoir des techniques de capture de ces animaux très particulières. Je vous parlais de filtration. On est vraiment sur ce schéma-là. C'est-à-dire que les fanons, il y a un petit écart entre les fanons. Ils aspirent en fait beaucoup d'eau et les retient en fait toutes les petites espèces qui vivent. Hein, donc, comme le krill hein, ou les petits poissons ou des petites seiches, des petits calmars hein, qui sont présents dans la masse d'eau. Donc, ils vont se nourrir en fait de ces petits animaux. En fait, le vrai souci, c'est qu'il leur faut cela en grande quantité. Il leur faut des grandes quantités de nourriture. C'est des animaux qui sont assez gigantesques, hein, les baleines. La baleine bleue est le plus grand animal du monde.
30 hein. mètres de long.
Exactement, on a une espèce de 30 mètres de long. Donc, il lui faut une grande quantité de nourriture. Donc, le krill, en fait, il est extrêmement abondant hein, dans les eaux froides. Et donc, ces baleines vont effectuer des migrations pour pouvoir aller se nourrir de ces petits animaux hein, dans les eaux froides.
Lorsque l'on parle de ces baleines, on pense aussi à la manière dont elles se dirigent. Elles se servent de la rotation de la Terre. Racontez-nous.
Alors, il y a plein d'hypothèses par rapport à ça pour le déplacement des baleines. Alors, certains pensent qu'aujourd'hui, il y a des espèces qui effectuent des migrations, mais pas très loin des côtes. Alors, certains pensent que du coup, ils utilisent quand même la proximité du littoral, hein, c'est-à-dire qu'ils s'en éloignent pas tellement. Donc, le fond est pas loin. Donc, ils arrivent en continuant, en fait, j'allais dire cette zone plutôt de talus, hein, arrivent à se déplacer grâce à ça. D'autres estiment que les baleines utilisent la rotation de la Terre ou alors ont un système un petit peu géomagnétique hein, qui leur permet de retrouver le nord hein, ou retrouver le sud hein, en fonction des temps et des périodes. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas encore complètement élucidé en fait, ce mystère par rapport aux grandes migrations de certaines espèces de baleines.
Alors, avant de parler du stock et du moratoire sur les baleines, je vous propose de partir en Basse-Californie. C'est une presqu'île en fait, qui est gigantesque, hein, qui longe la côte mexicaine. À l'est, coincé entre le Mexique et la péninsule, vous avez cette mer de Cortés ou le golfe du Mexique où s'est rendu Anne Pastor. Et Anne Pastor a rencontré une femme assez formidable qui est une spécialiste mondiale des baleines bleues qui s'appelle Diane Gendron, qui est biologiste québécoise. Prenez une bouffée. Alors évidemment, il fait beau parce que c'est le moment de la reproduction. Et plus tard, eh bien, les baleines repartiront dans les eaux froides chercher de la nourriture. Mais là, on est en plein accouplement.
Hola. Hola.
La recherche sur les baleines en général, c'est ça, c'est de sortir puis d'essayer de photographier le plus de baleines mmh. possible. Mais on n'a pas le temps de passer du temps avec aucune baleine. Donc, on les connaît pas vraiment. Moi, après 17 ans de faire cette étude-là, le jour où j'ai commencé à suivre une baleine, je me suis rendu compte que je connaissais absolument rien des baleines. Réellement, quand on pense à la protection des îles, vous allez voir et tout, c'est vraiment une région parfaite pour les baleines, d'allaiter leurs petits, de leur montrer comment se déplacer, etc. En plus, c'est le plus important, c'est un endroit qui est productif. Donc, il y a beaucoup d'aliments, il y a beaucoup de krill, des euphosides qu'on appelle. Donc, les femelles laissent souvent leurs petits en surface pendant qu'elles continuent à s'alimenter. Et ça va au contraire de tout ce que vous allez lire dans les livres, que les baleines migrent et jeûnent pendant 3, 4, 5 mois. Au niveau des baleines bleues du Pacifique Nord, c'est pas le cas. Ils s'alimentent tout le temps.
Et c'est pour ça qu'elles sont ici, d'ailleurs.
C'est pour ça qu'elles sont ici.
Alors c'est parti.
Allons-y.
Pour un voyage à la rencontre des baleines bleues. Baleine de 32 mètres de long, c'est-à-dire beaucoup plus grande que notre bateau.
Et notre bateau mesure 22 pieds. Donc,
ne pourrait-elle pas nous renverser ?
Non, les baleines bleues, selon mon expérience, c'est les baleines les plus pacifiques que vous pouvez rencontrer. Elles vont faire tout pour éviter de toucher le bateau. C'est déjà arrivé que les baleines sortent tellement proches. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on...
tape du pied.
On tape du pied, elle nous entend et elle tourne 90 degrés. Oh! Ah oui, pour vraiment éviter de nous toucher.
Ah, le silence.
Alors, effectivement, à moins d'une heure de bateau, hein, de la baie... On se retrouve ici au large, dans un calme olympien, et à 200-300 mètres, il y a déjà quelques baleines.
Oui, déjà, on est chanceux aujourd'hui. Voilà, ça c'est nos deux baleines. Ouais, ça c'est une paire. On va attendre qu'ils plongent, et puis quand ils vont être plongés, on va s'approcher un petit peu plus. C'est notre technique... de ne pas faire de bruit pendant qu'ils sont en surface.
Et vous pouvez vous avancer jusqu'à combien?
Doucement, doucement, les baleines elles, tolèrent d'une certaine façon là, vers 20 mètres, 10 mètres. Ouais. Mais c'est pas recommandé non plus. Les normes, c'est 100 mètres de distance. Ah, c'est celle qui n'a pas de dorsale. Tiens, on va aller voir celle-là. OK, donc on va s'approcher de l'empreinte, hein, l'espèce de cercle que les baleines font lorsqu'elles plongent. Puis on va regarder, voir s'il n'y a pas de morceaux de peau. Avec ces morceaux de peau-là, on fait tout plein d'analyses. Par exemple, on peut déterminer leur sexe, on peut déterminer de quelle lignée maternelle ils proviennent. Et aussi, ça nous permet d'aller voir s'ils n'ont pas déféqué. Parce qu'avec les défécations de baleines, on fait encore plein d'études. Tout ce qu'elles laissent sur leur passage.
Vous ramassez.
Oui. Ah, viennent de ressortir.
Et alors, c'est génial parce qu'en fait, au bout de 8-10 minutes, elles ressortent jusqu'à 20 minutes, je crois.
Les baleines bleues, oui, elles peuvent plonger même jusqu'à 30 minutes.
Alors là, il y en a deux.
Oui, la paire est ressortie. 12.
C'est vraiment longtemps, hein?
Elle a une belle marque sur la dorsale, là, oui. Elle va ressortir encore, je pense. Attendez.
Et elles vont où, là, toutes les deux?
Oh, elles se promènent. Elles font des cercles, donc il doit y avoir assez d'aliments en dessous, dans la colonne d'eau, pour qu'elles puissent s'alimenter. Ça, c'est celle qui manque, la dorsale. On a deux baleines très faciles à identifier aujourd'hui. Encore.
Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces baleines, par rapport aux autres? Et qu'est-ce que vous avez découvert d'étonnant au cours de toutes ces années de recherche?
Elles sont très grandes. C'est des animaux qui sont souvent solitaires. Mais par contre, justement, dans l'étude du suivi qu'on fait depuis 2009, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elles ne sont pas du tout solitaires. Une autre chose qu'on a découvert, c'est qu'ici, elles se reproduisent. Donc, on l'a très bien observé et ça dure très peu de temps. Donc, on est avec la numéro 124. Et puis, elle est seule, elle bouffe, non, elle fait des cercles comme on a vu aujourd'hui. Tout d'un coup, on entend un souffle au loin, comme on fait en ce moment. Et puis, ce souffle-là s'approche et vient directement vers nous et vers la 124. Et il y a un petit mélange qui se fait. Probablement, ils sont touchés en dessous de l'eau parce qu'il y avait de la peau, la même peau qu'on a ramassée partout. Et tout d'un coup, la 124 est sortie avec l'individu nouveau derrière elle. Plusieurs fois, tout d'un coup, ils se sont séparés. Donc, ce qu'on peut retirer de ça, c'est qu'il y a des interactions comme ça qui durent très peu de temps. Ça a duré à peu près une heure. Mais on a quand même bien vu que ces échanges-là se donnent et confirment aussi que, bon, ils se reproduisent aussi ici. Donc...
Et qu'elle vient, bien évidemment, mettre bas ici 12 mois plus tard.
11 mois plus tard. Les nouveaux-nés auraient environ 25 pieds, soit 7 mètres. Un beau bébé de la grosseur de notre bateau. Voilà, elles sont revenues en surface. Ce qui est intéressant, c'est que les petits-nés ici reviennent. Et c'est très intéressant, ce qui veut dire que les femelles... qui sont nés ici vont redonner naissance aussi ici. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est toute une ligne matriarcale de baleines, de femelles
Et alors effectivement, comme vous le disiez, hein, vous récupérez tout. Là devant nous, dans l'épuisette, de la peau de baleine. Vous récupérez aussi les défécations des baleines, parce que c'est comme ça qu'on peut calculer le taux de progestérone.
Chaque année nous donne un panorama plus détaillé de la biologie de ces animaux-là. L'animal le plus grand au monde est timide, finalement. Ils s'approchent pas, ils viennent pas nous voir. Par leur grosseur, ils pourraient nous faire voler.
On attend tranquillement prochain souffle de la baleine.
OK, c'est la même baleine. Il va falloir lui donner un nom à celle-là. On va voir ce qu'elle fait, vraiment.
Combien de souffles, en général, à la surface?
7, 8. Ça veut dire qu'elle va replonger à la même place où elle est sortie, donc il y a probablement de la nourriture en dessous.
Quel nom qu'on devrait lui donner?
Normalement, on donne des noms espagnols. El tiburón. ¿Quién cuenta? ¿Tú, Marcia? Elle va compter les souffles. Elle reste en surface assez longtemps. Hein?
Oh.
Voilà. Quand elle va partir, elle sort beaucoup plus le corps. Une belle dorsale, sans queue, 110, elle est partie.
Voilà, donc ce reportage dans cette mer de Cortés, signé Anne Pastor avec Diane Gendron comme biologiste. Céline Niret, vous écoutiez, parce que je vous en ai pas forcément facilement du côté de l'Océanopolis, hein, à Brest, hein, des baleines bleues quand même.
Ah, juste pour réagir au reportage, on s'y croirait, hein, vraiment.
Ah ben, on
oui, on y était,
ça pourrait être fait si vous voulez chez nous. Donc,
oui, alors il se trouve que quand même, on a la chance en Bretagne de temps en temps d'avoir des passages de baleines, hein, ouais. Différentes espèces. On a du rorqual commun assez fréquemment. Et puis, par exemple, l'année dernière, il y a une baleine à bosse qui est passée juste pas loin de Ouessant. Donc, ça a été quand même un événement assez particulier.
Voilà, qui voit Ouessant, voit son sang, mais voit aussi quand même des baleines.
Et
ça fait quand même du bien. Et nous avons ici en studio Jean-Benoît Charassin, que vous connaissez, Céline Niret, puisque donc c'est un. Alors, d'abord, c'est un passionné, évidemment, comme vous, un spécialiste des cétacés, un maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle, qui est chercheur et qui appartient, qui représente la France à la Commission baleinière internationale. Merci à vous, Jean-Benoît Charassin, donc, d'être là. On sait qu'en fait, on ne doit pas chasser depuis 1986, il y a eu un moratoire, on ne doit pas chasser commercialement cette baleine. Mais où en est-on aujourd'hui avec cette commission baleinière internationale? Et puis, quel est aussi l'état des stocks, s'il vous plaît?
Tout de suite, il faut préciser que, comme vous l'avez dit, il y a un moratoire à la chasse à la baleine. On ne chasse plus la baleine de manière commerciale depuis 1986. Il y a cependant quand même certaines formes de chasse, en particulier il y a la chasse scientifique. Donc là, la commission baleinière...
C'est quand même une grande hypocrisie.
C'est une hypocrisie. Donc, oui. Il y a la chasse scientifique sur laquelle je vais revenir, et il y a la chasse que l'on appelle de subsistance, la chasse traditionnelle, qui concerne les pays, essentiellement les pays arctiques, hein, donc des peuples de l'Alaska, de la Sibérie, qui, eux, ont le droit de chasser un certain nombre de spécimens, en particulier la baleine du Groenland, ce, dans le cadre d'une chasse gérée par la Commission baleinière internationale. Donc, la Commission conseille et recommande un certain nombre de prises chaque année. Alors, ce qui est beaucoup plus polémique actuellement, c'est bien sûr la chasse scientifique, la chasse dite scientifique. Hein. La CBI, qui est une vieille maison, a autorisé, lors de sa création dans les années 45-49, des prises dans le but de la recherche scientifique. Pourquoi le Japon chasse-t-il la baleine? Persiste-t-il à chasser la baleine? C'est une question auquel on n'a pas beaucoup de réponses. Effectivement, hein, bon, il y a une tradition de pêche et de chasse.
Et donc, il y a une voie par pays, hein, alors, dans cette commission baleinière.
Effectivement.
Ce qui veut dire qu'il y a des grands blocs. On va dire qu'en gros, il y a 50-50 quoi, en France. Et il y a même des pays que l'on peut acheter, qui n'ont pas eu toute baleine, mais qui ont acheté leur droit de vote. Quoi.
Alors, actuellement, effectivement, il y a deux grands blocs. Hein, le bloc des pays conservateurs, dont fait partie la France, dont font partie la plupart des tous les pays de l'Union européenne, sauf le Danemark, on va dire.
L'Australie en fait partie aussi.
L'Australie, oui. Donc la plupart des pays anglophones, le Kenya. Et de l'autre côté, nous avons le bloc des pays chasseurs, mené par le Japon, qui inclut, qui rassemble les pays d'Asie, certains pays, certains États insulaires du Pacifique ou des Caraïbes, certains pays africains. Et donc, effectivement, comme vous l'avez dit, le Japon essaye d'augmenter l'effectif du camp des chasseurs, tout simplement parce que pour faire basculer, par exemple, pour annuler ce moratoire, pour revenir en arrière, il faut rassembler les trois quarts des voix.
Jean-Benoît Charassin, maintenant, l'état des stocks, qu'est-ce que l'on peut dire ?
Peut-être un petit peu à l'encontre des idées reçues. Hein. Ce moratoire, effectivement, qui est en activité depuis 1986, a permis quand même une reconstitution d'un certain nombre de stocks. Les baleines à bosse, donc ça c'est l'exemple, certainement un des exemples les plus spectaculaires, en particulier dans l'hémisphère sud. Actuellement, le stock est-australien récupère à une vitesse de 10% par an, à peu près, ce qui est quand même encourageant. Le stock de l'Afrique du Sud est également en bon état.
Ça veut dire la baleine bleue, je crois qu'il y en a 5000
alors,
à peu près.
La baleine bleue, c'est un cas plus difficile, effectivement. La baleine bleue, ses effectifs ont été réduits à moins de 1%, aux environs de 1% de ses effectifs initiaux par la chasse industrielle. À peu près 300 000 individus avant la chasse industrielle et on en est maintenant réduit à quelques milliers. On a quand même des indices encourageants d'une croissance de quelques pourcents par an de cette population.
Alors ce que vous dites aussi, c'est qu'en fait, il y a d'autres nuisances auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont peut-être même plus importantes que la chasse.
Étant donné quand même que la chasse est quand même actuellement relativement limitée, hein, d'une manière globale, bien sûr, on se place à l'échelle globale, il faut évoquer parmi les menaces qui pèsent peut-être de manière encore plus directe sur les grands cétacés et également sur les petits cétacés, des menaces comme les captures accidentelles dans les engins de pêche, par exemple, les collisions avec les navires, hein, le trafic marin a considérablement augmenté dans les dernières décennies.
Alors on voit aussi les pollutions chimiques, on sait qu'il y a les bateaux de guerre, qu'il y a les sous-marins, qu'il y a les plateformes pétrolières, et puis on voit un certain nombre d'échouages. Alors là, on se dit quoi, le sonar est déréglé.
Dans certains cas, on peut faire un lien très net avec l'activité acoustique sous-marine, en particulier celle qui est reliée à des manœuvres des marines nationales. Hein.
Céline Liret, profondément, pourquoi vous aimez ces baleines ?
Alors c'est vrai que c'est des animaux qui occupent un milieu en fait, qui est quand même fait rêver. Quoi. Vivre dans l'eau, c'est quand même assez magique. Hein. Être dans un environnement où on n'a pas de limites.
Hein. Enfin,
on n'a pas les pieds sur terre.
Oui, mais condition que ce ne soit pas l'autoroute non plus.
Non, aujourd'hui, l'environnement marin est soumis à de nombreuses pressions d'origine anthropique et c'est vraiment très compliqué. On sait qu'aujourd'hui, on parlait du monde du silence il y a ça 30 ans. Sous l'eau, c'est tout sauf le monde du silence aujourd'hui. Hein. C'est plutôt la discothèque un samedi soir
c'est
à minuit.
Image. D'accord. Donc les baleines sont sourdes, c'est normal, comme nos ados.
Voilà.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous envoyer à Océanopolis parce que vous pouvez découvrir quand même des tas de choses sur la vie des cétacés, chère Céline. Hein.
Oui. Exactement, il y a plein de choses. Et il y a des sculptures taille réelle. Vous pourrez découvrir la baleine des Basques. Oui. Donc une vraie baleine avec des fanons voilà. En sculpture.
C'est très beau, hein. Océanopolis, vraiment, c'est absolument un régal à Brest. Vous avez aussi l'aquarium de La Rochelle, et puis vous avez aussi Nausicaa, mais oui. Donc voilà, petit point, petit dossier sur les baleines, et autre dossier, encore plus dans l'actualité, avec Nathalie Fontrelle, dans quelques instants. des petits gars de Brooklyn, très très bien ça aussi. Mille à Grèce sur France Inter. Oui, je vous précise que Anne Gouzon donc, nourrit les sites de CO de mon amour et que vous avez encore cette semaine de très nombreux sites si vous voulez éplucher entre guillemets donc les baleines. Elle est là, c'est à nous, oui.
Les oiseaux dans la oui, charmille.
Oui, voilà, c'est, oui, c'est joli, mais là, l'actualité, de oui, l'actualité de l'environnement, mais il faut là-bas.
Oui, peut-être pas quand même. Bonjour, chère Nathalie Vondrel.
Bonjour, Denis, et bonne année.
Et bonne année,
j'ai encore le droit de le dire.
Mais vous pouvez, et puis il en faut beaucoup, vous voyez, pour que ça fonctionne, que ça infuse les uns avec les autres. Et donc, après les baleines, donc ma sirène préférée de l'environnement, c'est donc vous, et on peut le dire, la chasse est ouverte.
La chasse aux voix, hein.
Ah.
Ah oui, parce que cette semaine, en visite dans l'Ariège, Nicolas Sarkozy, faites gaffe, Denis,
oui,
a dit tout le bien qu'il pense des chasseurs.
Je vais vous le dire solennellement, hein, vraiment du fond du cœur, les chasseurs ne sont pas les ennemis de l'environnement.
Et il a regretté la décision du Conseil d'État de casser la date de fermeture de la chasse aux oies. Vous savez qu'elle avait été fixée au 10 février et le Conseil demande que la date ne soit pas postérieure au 31 janvier.
Alors on ne tire pas quand même sur les oiseaux migrateurs en période prénuptiale.
C'est une directive européenne effectivement qui l'exige. Les oiseaux commencent à remonter vers le nord pour aller se reproduire, donc interdit de les tirer. Le président de la République s'est donc ému de cette décision et a donné rendez-vous aux chasseurs. Il les recevra prochainement à l'Élysée pour en discuter. La chasse aux voix est donc ouverte pour le président de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, Pierre Athanase.
Sarkozy chasse les voix des chasseurs, ne chasse pas le même gibier qu'eux. Et là, on le voit bien depuis le début de l'année, donc il y a énormément de cadeaux électoraux qui sont faits. Il y a une nouvelle espèce gibier qui vient d'être offerte aux chasseurs. Il y avait 90 espèces gibier, il y en a une 91e depuis cette année. On est le pays où il y a le plus d'espèces gibier en Europe. Et pire que tout, alors qu'on connaît un petit peu la situation économique, la perte du triple A, et il y a une loi chasse qui doit passer, qui prévoit une niche fiscale pour les chasseurs. Et ces voix des chasseurs que Sarkozy va chercher, en plus, elles n'iront pas à l'UMP. Donc c'est vraiment du racolage qui ne sert à rien, puisque 25% des chasseurs ont annoncé qu'ils voteraient Front National, 22% voteraient socialiste et seulement 17% voteraient Sarkozy. Donc du coup, pour essayer d'avoir 1 ou 2% de chasseurs qui voteront plus pour lui, ce qui représente peanuts au niveau national, puisqu'il n'y a qu'1,2 million de chasseurs, on est en train d'offrir la nature en pâture.
Oui, mais enfin, les autres voix, où vont-elles, malgré tout, Pierre Athanase? Que répondent les chasseurs, Nathalie?
Alors, je rappelle quand même que Pierre Athanase est l'auteur du livre noir de la chasse aux éditions Sang de la Terre, dont on avait beaucoup parlé quand il est sorti. Que répondent les chasseurs, me dites-vous? Eh bien, Pierre de Bois-Guilbert, le porte-parole des chasseurs français, répond à la question. La chasse aux voix des chasseurs est-elle ouverte?
Oui, mais écoutez, dans ce... Et alors, tout est politique aujourd'hui, si vous voulez... C'est la chasse aux voix, bien sûr, mais et alors, ça ne me paraît pas en soi critiquable. Donc, le président nous écoute aujourd'hui plus qu'il nous aurait écouté il y a un an, ça me paraît vraisemblable. Je ne sais pas si ça va les appeler à voter Sarko. La chasse, heureusement, n'est pas politique. On chasse que l'on soit, je l'espère, de droite, de gauche ou du centre. Hein. C'est le premier loisir des Français ou le deuxième après le football, ne l'oublions pas. Donc, heureusement, la chasse n'appartient à personne. Vous savez, il faut repositionner ce débat sur le plan sociétal. Ce que nous sommes, on ne comprend pas dans les couloirs du pouvoir et que l'on ne comprend pas dans les couloirs des associations écologistes, c'est que la chasse, pour un grand nombre de citoyens de ce pays, c'est un mode de vie, c'est une culture, c'est un patrimoine qui vient de génération en génération. On n'a de cesse de réduire, de contraindre, de rendre impossible ces pratiques. Vous touchez là au patrimoine culturel et sociétal d'une population.
Ouf. Attention, oui. Et donc, toujours lors du même déplacement en Ariège, Nicolas Sarkozy a évoqué l'ours des Pyrénées.
Et oui, il n'aurait pas fallu en réintroduire au départ, lui a dit un éleveur.
Alors ça, je suis bien d'accord avec vous, parce que Pimprenelle et Nicolas, je suis d'accord, mais gros nounours, ça, je suis comme vous, je n'en veux pas.
Les enfants clonés OGM qui ne rapportent que des bonnes notes, ça va sortir quand ça? Merci de me le dire, hein, Denis Chessou et CO2 mon amour.
Allez, un autre sujet. OGM, non OGM, la cohabitation serait possible ?
Eh bien, écoutez, c'est en tout cas l'avis du Haut Conseil pour les biotechnologies. Mais c'est un avis très vague, en fait, hein, parce qu'il ne fixe pas de distance de sécurité entre culture OGM et non OGM. Il renvoie les semences, en quelque sorte, dans le camp des professionnels. Les agriculteurs doivent se débrouiller entre eux pour adopter des règles de cohabitation. Écoutez, Christine Noiville, c'est la présidente du comité éthique et social du Haut Conseil pour les biotechnologies.
Aujourd'hui, on va vous dire, hein, par arrêté, bah, si vous voulez faire du maïs transgénique, il faudra que vous assuriez une distance de tant de mètres, ou de tant de dizaines ou de centaines de mètres, avec la production du voisin, avec le champ du voisin. Bon, très bien. Dans certains cas, ça pourra être extrêmement compliqué parce que vos voisins voudront cultiver bio, sans OGM, avec des seuils requis pour leur production qui sont extrêmement bas. Par conséquent, si on arrive à trouver des solutions où les gens négocient entre eux pour qu'un agriculteur OGM se mette en bout de zone, tandis que l'agriculteur qui veut continuer à faire du bio se mette à l'autre bout de la zone, et entre les deux, il y a un agriculteur qui continue à faire du conventionnel et qui s'en fiche un peu finalement de devoir vendre une production qui est qui a des traces d'OGM, au-delà du seuil requis, eh bien, on arrive à trouver des arrangements. C'est ce qui s'est fait au Portugal et il n'y a pas de raison que sur le terrain, on ne puisse pas trouver des accords comme ça en bonne intelligence.
Voilà, donc sortez les avirons, c'est de la brasse coulée. Parce que quand même, en filigrane, Nathalie, on comprend qu'il est quasiment impossible d'éviter la présence dite fortuite d'OGM dans les cultures non OGM.
Écoutez, Denis, j'ai un peu compris la même chose que vous.
Bon, alors, au fait, où est-ce qu'on en est pour le maïs OGM Monsanto 810?
Eh bien, la France, vous le savez, est en train de peaufiner ses arguments pour réactiver la clause de sauvegarde et le moratoire sur la culture de ce maïs. La ministre de l'écologie affirme que les nouvelles études prouvent qu'il n'est pas inoffensif pour l'environnement. Mais pour Yvette Daté, qui est scientifique et membre de l'AFBV, c'est une association scientifique pro-OGM, eh bien, il n'y aurait pas de fait nouveau. Alors, juste une précision avant de l'entendre. Ce qu'elle appelle, en toute bonne professionnelle, événement de transformation, eh bien, c'est le maïs génétiquement modifié.
Elle doit argumenter son dossier avec des éléments scientifiques qui seraient apparus depuis la dernière demande de clause de sauvegarde. Nous avons à l'AFBV, l'Association française des biotechnologies végétales, un conseil scientifique qui a fait une analyse des articles récents et après une analyse scientifique des articles qui sont parus, le conseil scientifique en conclut avec tous les arguments scientifiques et techniques à l'appui, qu'il n'y a aucun élément nouveau susceptible de faire accepter une clause de sauvegarde sur cet événement de transformation.
Mais pourtant, la ministre de l'écologie elle-même dit si. Depuis, il y a eu des études qui ont montré qu'il pouvait y avoir un risque, et surtout pour l'environnement et pour les insectes, par exemple.
Je crois qu'elle se trompe. Alors, s'ils arrivent à partir de maintenant à faire traîner les choses et à déposer un document, même s'il n'a, quelle que soit sa valeur, qui permettrait de ne pas avoir de décision avant la période de semis de maïs, ils auront gagné une campagne supplémentaire. Et la période de semis de maïs, c'est le mois d'avril, mai. On ne peut pas semer des maïs plus tard en France.
Voilà, donc pour le point aujourd'hui, ce n'est donc pas fini comme bataille, on s'en doute bien. Et maintenant, on va passer un petit cri d'alarme de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, parce que trois nouveaux cadavres de Milan Royal ont été retrouvés dans le Puy-de-Dôme. Et donc, la LPO demande l'interdiction des traitements à la bromadiolone.
Oui, alors la bromadiolone, c'est un anticoagulant que l'on utilise pour empoisonner les campagnols hein, qui ravagent les prairies. Mais comme les rapaces mangent des campagnols, eh bien, ils meurent.
Oui, mais pourtant, les règles d'empoisonnement sont quand même très strictes.
Oui, alors on enfouit des grains de blé empoisonnés avec une charrue. D'ailleurs, les grains de blé en question sont colorés en bleu, hein, pour ne pas se tromper. Le sillon est ensuite rebouché. Et comme les campagnols creusent des galeries dans le sol, eh bien, on suppose qu'ils vont manger les grains et aller se cacher dans leur galerie pour mourir.
Mais le campagnol est facétieux et ce n'est pas toujours le cas.
Et non, parce qu'on trouve des cadavres en surface et aussi des animaux très affaiblis qui deviennent évidemment des proies faciles pour les prédateurs comme les renards et les rapaces.
Voilà, d'où l'hécatombe.
Oui, alors que le Milan Royal, vous le savez, est une espèce protégée parce qu'elle est déjà en danger.
« Comment une mesure écologique peut-elle devenir anti-environnementale, Nathalie ?
Eh bien, c'est la question que se posent les armateurs de France. En 2008, l'OMI...
L'Organisation Maritime Internationale...
L'OMI adopte une nouvelle réglementation sur les émissions de soufre des navires qui croisent dans les zones sensibles. En 2015, elles ne devront pas être supérieures à 0,1%. Les armateurs, à l'époque, disent banco. Ils ont 7 ans pour trouver la solution. Mais aujourd'hui, alors que l'échéance approche, ils tirent la sonnette d'alarme.
Des solutions, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Oui. Fernand Bozzoni est en charge de l'environnement pour Armateurs de France.
Aujourd'hui, le problème, c'est que nous ne pouvons pas matériellement remplir ces obligations pour plusieurs raisons. D'abord parce que les scrubbers, qui sont ces appareils qui nous permettent de nettoyer les fumées de leur teneur en soufre, n'existent pas et ne sont pas efficients. Deuxième chose, l'autre alternative serait de brûler du gaz naturel, mais il n'y a pas d'installation permettant d'approvisionner les navires en gaz naturel. Et puis, troisièmement, c'est pouvoir brûler du gazoil, mais là, c'est économiquement infaisable et c'est totalement suicidaire. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de solution qui pratiquement nous permettrait de remplir nos obligations au titre des dispositions de l'OMI.
Et puis une chose tout de même, Denis, c'est que si le transport fluvial, hein, on veut à tout prix dans ce pays mettre les camions sur des bateaux, oui. Si le transport est fluvial et maritime n'est plus compétitif, et ben les camions ils vont retourner sur le bitume.
Et ben voilà, youpi.
Allez, j'éclate.
Le vélo entre en campagne.
En campagne électorale, évidemment.
Le Club des villes cyclables a présenté son cahier de doléances aux candidats actuels et futurs à l'élection présidentielle.
Alors, ce club représente plus de 1100 collectivités territoriales et de tous bords politiques.
42 millions d'habitants et d'électeurs.
Et oui, le club adresse donc 10 propositions pour aider les collectivités à financer la place du vélo en ville, dont une, affecter une partie des dépenses consacrées aux routes, aux autoroutes et aux lignes à grande vitesse à la petite reine. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités locales supportent seules 95% des dépenses. Ouais. Vous êtes cycliste, vous, Denis ?
Depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait plus de 35 ans quand même. Oui, tout à fait.
Vous n'êtes pas candidat ?
Il ne me semble pas. Non.
Bon, d'ailleurs, question, combien de candidats roulent à vélo ? Réponse avec Jean-Marie Darmian, c'est le président du Club des villes cyclables.
Ils roulent souvent lorsque la caméra est présente, mais rarement quand même dans leur quotidien. Ça se saurait si, par exemple, comme au Danemark, tout un conseil des ministres arrivait régulièrement à vélo dans le lieu de réunion, puisque c'est ce qui s'est produit avec le changement de majorité au Danemark.
Vous voyez, c'est un argument pour mettre des caméras partout, hein, c'est QFD.
Alors sachez, Denis, que le jeudi 26 janvier, je pense que c'est jeudi prochain d'ailleurs, le ministère de l'écologie organise les premières rencontres nationales du vélo.
Et alors pour terminer, ce concours dont nous sommes vraiment fans, villes et villages étoilés.
88 communes ont été primées cette année pour avoir amélioré la qualité de la nuit. Alors évidemment, il s'agit de réduire la pollution lumineuse. Explication d'Anne-Marie Ducroux, c'est la présidente de l'Association pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne.
Ça va de toutes petites communes, environ 60 habitants, jusqu'à 15 000 habitants à peu près. Alors que font-ils ? Ils améliorent d'abord leurs équipements de l'éclairage public, mais ils organisent aussi différemment le fonctionnement de cet éclairage public. C'est-à-dire, par exemple, ils décident d'une extinction nocturne. Alors elle peut être partielle ou plus importante dans la nuit. On essaie de regarder aussi s'ils ont une politique de sensibilisation des citoyens, parce que la question n'est pas que technique, elle est aussi citoyenne et politique d'une certaine manière. Donc est-ce qu'ils sensibilisent les habitants ? Est-ce qu'ils leur demandent leur avis ? Est-ce qu'ils se fixent des objectifs ? Donc on essaie de regarder tout un ensemble de critères qui sont à la fois techniques, mais aussi citoyens et politiques.
Les villes et villages étoilés qui ont déjà été primés l'an passé ou plus longtemps auparavant, quelle expérience ils en tirent en termes de bénéfices économiques
Ils disent en général qu'ils économisent entre 25 à 45% de leur facture d'électricité de la commune. Donc on voit que c'est non négligeable dans un contexte où les budgets publics sont extrêmement tendus. Et puis au-delà, si vous voulez, ils posent la question de la lumière un peu différemment. C'est-à-dire finalement, on a vécu avec un siècle, le 20e siècle, qui était celui de l'accès à la lumière. Moi, j'ai coutume de dire que celui du 21e siècle, c'est La question essentielle, c'est celui de l'excès de lumière, puisqu'on sait que la tendance à l'émission globale de lumière dans l'atmosphère et sur Terre est croissante depuis des années. Donc au fond, un élu, sans le savoir, il pose des questions essentielles du XXIe siècle.
Mais avec l'augmentation prévue à peu près de 30% d'ici 2016 de l'électricité, ça va calmer.
Oui, et puis d'ailleurs, vous savez qu'en juillet prochain, les enseignes lumineuses devront s'éteindre entre 1h et 6h du matin.
Ce qui veut dire que si je suis un renard ou une chauve-souris, je n'aurai pas accès à la publicité ?
Et non !
C'est absolument incroyable. Bon, soit dit, moi la nuit, je dors. Hein, donc,
bon, voilà. Bah écoutez, très bien pour vous. En tout cas, en sortant du studio, vous êtes gentil, vous éteignez la lumière.
Moi, je le fais. Je le fais tout à fait régulièrement et j'éteins même les studios, parfois des petits camarades où il n'y a personne dedans. France Inter, c'est un peu un sympa de Noël de temps en temps.
La nuit, oui, avec des bureaux vides et des fenêtres évidemment allumées.
Mais ça doit être pour fêter les sondages. Ça doit être ça. Voilà. On se retrouve très bientôt. Au revoir, Nathalie.
Au revoir, Denis.
Que vous dire que Terre Sauvage, numéro excellent de janvier, vous offre une escapade au soleil de Guadeloupe, mais aussi à La Réunion, donc un parc national à l'épreuve du feu. Donc ce jeune parc s'efforce de convaincre les Réunionnais de la valeur de leur patrimoine naturel, donc malgré les incendies. Et on voit tout le travail qui est effectué, donc il y a un reportage remarquable dans ce numéro de Terre Sauvage, notre partenaire du mois de janvier. Merci à Cédric Lalanne, à Renan Mahé, à Stéphane Combe, à Valérie Ayestaraï qui a réalisé l'émission, à Patrick Deschamps. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Bernard Maris. Vous le connaissez, évidemment vous connaissez Bernard Maris. Il sera le rédacteur en chef de cette émission avec nous en direct. L'atelier du Mont-Petit-Loup, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux. Et allez, on va dire pub.